Réservez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Territoria, ravi de vous retrouver. Nous sommes toujours en direct du congrès HLM à Montpellier depuis le stand du gouvernement qui nous accueille et qui nous permet d'ailleurs de vous proposer cette émission qui va s'intéresser notamment au futur du renouvellement urbain avec l'Agence pour la rénovation urbaine. Renouvellement urbain accéléré, poursuivre, c'est le titre notamment de cette émission avec trois invités en plateau pour parler de ce sujet plus que jamais d'actualité. Anne-Claire Miallo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de l'ANRU. Cédric Van Sivendel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Villeurbanne dans le département du Rhône. Et puis Jean-Martin Delorme, bonjour.
Bonjour.
Inspecteur général au ministère du Logement. Alors on y reviendra évidemment tout à l'heure, mais il se trouve que vous avez été tous trois missionnés par l'ancien gouvernement pour réfléchir au futur du renouvellement urbain. Vous nous direz comment vous avez pu mener vos travaux. On ne parlera pas des conclusions évidemment de ce rapport. Et pour cause, après la dissolution, vous n'avez pas pu remettre votre rapport à un exécutif démissionnaire. Maintenant qu'on a un nouveau gouvernement, peut-être que quelqu'un peut me répondre déjà d'emblée. Est-ce que vous savez quand est-ce que vous allez pouvoir remettre ce rapport ? Est-ce qu'il y a une date déjà ?
Bientôt.
Bientôt, d'accord, ok. On n'en sait pas plus. Le 1er août 2003, Jean-Louis Borloo, ministre délégué à la Ville, a fait voter la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Et quelques mois plus tard est née l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui doit diriger, financer le programme national de rénovation urbaine, PNRU. Anne-Claire Miallo, l'ANRU a fêté ses 20 ans en mars dernier. Est-ce qu'on peut rappeler quelles sont tout simplement les différentes missions de l'agence ?
Merci beaucoup. Effectivement, l'agence est une agence qui a fêté ses 20 ans, qui est chargée de mettre en œuvre les programmes de renouvellement urbain, mais également d'autres programmes qui lui ont été confiés, notamment des programmes d'investissement d'avenir. Donc, principale mission, c'est bien évidemment le déploiement des programmes de renouvellement urbain qui consistent dans l'investissement dans les quartiers politiques de la ville pour transformer le cadre de vie, améliorer notamment l'habitat pour créer du logement digne, mais aussi travailler sur les espaces publics et les équipements publics. Et cette intervention de l'ANRU, elle est guidée par deux principes clés. Le premier, c'est la volonté de participer au développement de la mixité sociale et de la lutte contre la ségrégation socio-territoriale dans les agglomérations. Et le deuxième, c'est de contribuer à la construction de la ville durable. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une action qui est particulièrement centrée sur cette question de la façon dont on pense la ville de demain et dont on travaille pour qu'elle soit la plus durable possible et surtout qu'elle permette aux habitants des quartiers sur lesquels nous intervenons de vivre dignement et sans subir les conséquences, notamment des aléas climatiques.
En plus du PNRU, quels sont les différents programmes existants de renouvellement urbain ?
Alors, en plus du PNRU, le premier programme que nous avons terminé, là nous sommes en train de mettre en place le deuxième programme, le NPNRU, mais au-delà, nous avons effectivement travaillé sur d'autres types de programmes. Je pourrais citer par exemple le PNR4 qui est en train de se terminer, d'ailleurs cet acronyme un peu compliqué. C'est un programme que nous avons conduit conjointement avec l'État et l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, pour intervenir dans les centres anciens dégradés. Et c'est un programme qui a été très important pour permettre d'apporter une réponse sur les centres anciens dégradés. Mais nous avons aussi des programmes qui ont été lancés plus récemment, comme Quartier Fertile pour développer l'agriculture urbaine, mais aussi Quartier Résilient pour renforcer la résilience des programmes de renouvellement urbain, et enfin des programmes d'investissement d'avenir qui sont pour nous extrêmement importants et qui nous permettent d'apporter des réponses complémentaires. Le congrès de l'USH est aujourd'hui centré sur le sujet de l'innovation, et justement ces programmes d'investissement d'avenir nous permettaient d'innover soit dans les réponses, soit dans les techniques, par exemple avec du soutien à l'innovation dans les quartiers, mais aussi un fonds de co-investissement que nous avons créé avec ces fonds d'innovation pour investir en fonds propres dans les quartiers et faire venir des entreprises privées pour favoriser l'emploi et l'activité économique dans les quartiers.
En faveur de la jeunesse aussi ?
En faveur de la jeunesse aussi, effectivement, je ne les ai pas tous cités, il y en a de nombreux, mais effectivement aussi en faveur de la jeunesse avec le financement notamment des internats d'excellence.
Alors, pour le 20e anniversaire de l'ANRU, vous avez organisé au mois de mars un colloque baptisé 20 ans de renouvellement urbain, penser les quartiers de demain. Après 20 ans à œuvrer, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la mise en œuvre de la politique publique de renouvellement urbain ?
Alors on en est à un stade avancé, hein, c'est-à-dire qu'on a des quartiers qui ont été rénovés, qui sont livrés. Aujourd'hui, sur le deuxième programme, on est à près de 60% d'engagement des crédits et on doit terminer les engagements d'ici 2026. Et on voit concrètement des quartiers transformés. Il se trouve que hier, j'étais à la Mosson, un quartier de Montpellier bien connu avec le maire président de Montpellier Métropole. Et on voit à l'œil nu la transformation avec des nouveaux logements qui sont créés, des espaces publics qui sont redonnés aux habitants, des écoles qui sont en train d'être construites, des logements qui sont réhabilités. Et on voit cette transformation vraiment à l'œil nu. Et c'est le cas dans beaucoup de quartiers en France, qui est un élément très positif et ce qui nous pousse vraiment aussi à envisager de poursuivre, parce que quand on va sur le terrain, comme je le fais très régulièrement, on se rend compte de l'apport de cette politique publique pour améliorer la vie des habitants des quartiers.
Et finalement, c'est pas évident à répondre, mais les plus grandes réussites du programme de renouvellement urbain, quelles sont-elles pour vous ?
Elles sont très nombreuses. Je pense que la première réussite, ça a été celle de Jean-Louis Borloo de remettre ce sujet à l'agenda politique et transpartisan. Et de mobiliser l'ensemble de la nation sur cette problématique. Se dire que les quartiers méritent qu'on investisse, qu'il n'y a pas de territoire perdu de la République et qu'il est important que l'ensemble des forces vives de la nation, et c'est le cas des partenaires sociaux, mais aussi des collectivités territoriales, des bailleurs sociaux et de l'État, se mobilisent pour les habitants des quartiers, parce qu'il n'y a pas d'endroit qui doit être abandonné dans la République, que tous les Françaises et les Français, toutes les personnes qui habitent en France ont le droit à un logement digne et ont le droit de vivre dans un environnement qui soit agréable et qui permette à leurs enfants de grandir, de choisir leur futur et d'avoir les meilleures chances dans la vie.
Alors Cédric Van Sivendel, je rappelle que vous êtes le maire de Villeurbanne. Attendu depuis plus d'une dizaine d'années, le projet de renouvellement urbain de Saint-Jean a démarré, notamment cette année, avec une présentation publique qui a lieu en février. Il se trouve où ce quartier dans Villeurbanne ?
Il se trouve à l'est de la ville. Villeurbanne a la particularité d'être finalement pour les Parisiens, c'est comme si c'était le 18e, le 19e et le 20e. Et puis de l'autre côté du périphérique, on a 15% de la population, dont une partie qui habite à Saint-Jean pour à peu près 800 logements. Donc c'est un endroit extrêmement important, parce que c'est à la fois un endroit où il y a du logement social, mais c'est aussi un quartier d'avenir pour notre ville.
Alors justement, qu'est-ce qu'il prévoit, ce plan de rénovation urbaine du quartier, et qu'est-ce qui va changer très concrètement pour les habitants sur place ?
Très concrètement, c'est la réhabilitation de la totalité du parc de logement social. C'est l'arrivée du tramway qui est attendu depuis 40 ans. Et pour Vaux-en-Velin, qui est une ville juste à côté de Villeurbanne, et puis pour les habitants du quartier Saint-Jean, c'est une nouvelle école, c'est une nouvelle crèche, c'est une maison médicale, c'est des services, c'est la préservation de tout le tissu économique qui est déjà présent sur le quartier. Et ça, c'est une chance énorme pour ce quartier. Il y a une activité économique importante. Et puis c'est aussi le déclencheur d'une nouvelle zone d'aménagement concertée avec 2000 logements supplémentaires qui vient s'articuler finalement avec le projet de rénovation urbaine. L'ANRU a été très exigeante avec la ville de Villeurbanne et avec la métropole sur la combinaison de à la fois ce développement d'une zone d'aménagement concertée, l'arrivée des transports en commun. Mais au final, je crois que tout le monde est très satisfait de ce projet et des orientations que nous donnons.
Bon, Anne-Claire, vous avez eu raison d'être exigeante. On en est où au niveau des travaux ? Ils ont débuté ?
Non, on est en pleine phase de relogement pour les ménages, de diagnostic, et les travaux commenceront courant 2025.
Ok, et ce sera terminé pour quand ? On a une idée ? Ou c'est impossible à...
Non, le projet urbain lui-même, tel qu'il est financé par l'ANRU, il est fini aux alentours de 28-29, 30 au plus tard.
Ok. Ce projet de rénovation urbaine, il est piloté donc par la ville avec la métropole de Lyon et les partenaires NPNRU. Pourquoi c'est absolument nécessaire d'avoir à ses côtés comme partenaire une agence nationale comme l'ANRU pour transformer justement tous ces quartiers populaires et améliorer tout simplement le cadre de vie des habitants sur place ?
Pour moi, c'est beaucoup plus que ça, l'ANRU. C'est beaucoup plus que transformer le cadre de vie. Anne-Claire Mialot faisait état au fait que Jean-Louis Borloo avait remis à l'agenda de nos politiques publiques la question, finalement, de la cohésion sociale. C'est ça qu'il a fait. Et je me rappelle très bien, j'étais au congrès HLM de 2002. Ça fait longtemps. Hein. Et quand il vient au congrès HLM, il commence à dire quelle est son intuition et il dit... Il faut reconstruire des nids autour de la maman. Alors chacun lui laissera la paternité de ses propos et ce que ça peut générer de différenciation. Mais en tout cas, il y avait un propos autour de reconstruire quelque chose de l'ordre de la maison autour de la famille. Et c'est pour ça que je parle de cohésion sociale. C'est pas simplement réhabiliter les logements, c'est faire en sorte que ces logements soient des lieux dans lesquels on peut faire grandir nos enfants, dans lesquels on peut construire des parcours familiaux. Et c'est à ça qu'on travaille. C'est pas simplement le bâti, c'est aussi finalement redonner des chances de cohésion sociale à ce pays. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui pour que l'ANRU continue, en tout cas que les projets de rénovation urbaine continuent, parce qu'on a un enjeu de cohésion sociale extrêmement important dans ce pays.
Alors, vous le disiez, les travaux n'ont pas encore débuté. Donc, pour aider finalement aussi la population à se projeter, vous leur avez proposé des animations pour présenter le projet concrètement. C'est quoi les premiers retours, en fait ? On a envie de savoir ce que pensent les premiers concernés de ce futur projet.
L'ANRU et les projets de rénovation urbaine, et ce n'est pas de dévoiler le rapport que de parler de cela, c'est on se rend compte qu'il y a un besoin extrêmement important, que ça ne soit pas un rouleau compresseur pour les populations qui habitent dans les quartiers, que ça ne soit pas quelque chose qui vienne s'imposer comme une espèce de force extérieure qui vient tout balayer sur son passage. Et donc la participation des habitants, ce n'est pas du tout anecdotique, ce n'est pas du tout un supplément d'âme. C'est clé si on veut que ces projets soient adaptés et soient acceptés par les habitants. Et très concrètement, sur Saint-Jean, par exemple, on a travaillé sur la diversification de l'habitat, sur qu'est-ce qu'on construit, quelles sont les hauteurs qu'on construit, avec des équipes d'urbanistes qui ont été extrêmement inventives, qui ont fait des maquettes sur lesquelles on pouvait jouer sur les questions des hauteurs. Du coup, ça a fait complètement déplacer un parc que initialement on avait prévu en bordure d'un canal, et finalement il est au cœur du quartier, ça bouge sur l'école. Et puis il y a encore des projets très tendus, par exemple on ne sait pas encore où on va reconstituer un terrain de sport parce que ça devient un parc. En gros, la moitié du quartier est d'accord pour que ça devienne un parc autour de l'école, l'autre moitié dit c'est pas possible de nous supprimer le parc. Bah, c'est ça le discours et la manière de travailler avec les habitants, c'est de trouver un chemin de l'intérêt général, et c'est pas simple.
Mais la concertation, ça marche aussi.
Non, mais la concertation, c'est indispensable. Ouais. On ne fait pas le bonheur des gens contre eux. On travaille avec eux. C'est pas facile. Il faut aussi que chacun soit à sa place. Mais voilà. Et la concertation, ça ne peut pas être anecdotique.
Bien sûr. D'autres quartiers de Villeurbanne pourraient faire l'objet d'un projet de rénovation urbaine ?
C'est déjà fait. En fait, les deux quartiers nécessaires qui devaient être traités dans le cadre de l'ANRU, le quartier Desbuères est en phase de finalisation. Et Saint-Jean, on commence. Donc, pour l'instant, on réfléchit peut-être à un autre quartier, mais ça fait partie des éléments en discussion, qui est un quartier du Tonkin, qui est un des derniers grands quartiers d'urbanisme sur dalle dans la métropole de Lyon. C'est le seul qui n'a pas été traité dans la métropole. Donc peut-être qu'à l'avenir, on pourrait demander à ce qu'il ait un accompagnement.
Bon, on y reviendra. Jean-Martin Delorme, quelles sont les missions de JEDD, l'Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable ?
Alors ça existe, ces inspections, ça existe un peu dans tous les ministères.
Ouais.
Les ministres peuvent venir nous solliciter pour faire des rapports d'audit, d'évaluation de politique publique. Et donc, on est dans ma section une vingtaine d'inspecteurs qui font des rapports sur l'évaluation d'un dispositif fiscal ou bien sur des choses comme comment on va financer le réaménagement suite au recul du trait de côte, ou bien les locations touristiques et l'équilibre avec le logement locatif, quelles sont les façons de rééquilibrer le marché et la fiscalité en particulier.
Vous voyez là. Ouais. Et donc l'inspection générale, c'est ça, elle compte 6 sections, dont la vôtre, que vous présidez, qui est donc la section Habitat, Aménagement et Cohésion sociale.
Voilà, exactement.
D'accord, ok. Alors je le disais tout à l'heure en introduction de cette émission avec Anne Termialo et Cédric Van Sivendel, vous avez été missionné pour réfléchir au futur du renouvellement urbain. Comment est-ce que vous avez finalement, tous trois, mené vos travaux ? Je ne sais pas qui veut répondre, mais allez-y.
En parfaite harmonie d'abord.
Oui.
Et deuxièmement, mais ça va être sans surprise, on a construit la façon de faire en fonction de la commande qui nous était passée. Et la commande, c'est important de bien le comprendre. Elle avait deux aspects. Un premier aspect qui est le programme de renouvellement urbain. Le deuxième programme de renouvellement urbain s'achève bientôt. La fin des engagements financiers est prévue pour 2026. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? On se rappelle tous le trou d'air qu'on a eu entre le premier programme et le deuxième programme. Donc comment on fait pour enchaîner. Et puis il y a un deuxième aspect dans la mission qui est le renouvellement urbain va devenir le mode normal de fabrication de la ville lorsqu'on veut économiser désormais les territoires agricoles, forestiers ou naturels. Et donc comment on construit une nouvelle façon de fabriquer la ville avec du renouvellement urbain, et en particulier dans des territoires qui sont en difficulté, comme des territoires en déprise économique, ou bien des territoires du type petite ville ou ville moyenne qui ont un centre-ville qui se désertifie, et puis des territoires pavillonnaires où on a des marchands de sommeil qui investissent certains de ces quartiers. Et donc, il y a ces deux aspects-là, et donc on a construit notre façon de travailler en tenant compte de ces deux éléments. La première chose qu'on a faite, c'est de trouver une petite équipe qui puisse bosser avec nous. Ils sont extraordinaires, ils sont là la plupart, et ils ont fait un job extraordinaire pour nous aider à construire ça. La deuxième chose, on est parti du principe d'aller voir sur les territoires comment ça se passe. Donc on a visité, on a fait une dizaine de déplacements, que ça soit des grands quartiers d'habitat social en cours de rénovation. On a visité Lyon, on a visité Rennes, on a visité Nancy, par lequel on a commencé. Et puis, des villes moyennes, comme Châteauroux, ou des petites villes, comme notamment en Occitanie, j'ai oublié, Saint-Gilles, voilà. Et donc, pour aller voir comment ça se passait et comment les élus se saisissaient de ces problématiques de renouvellement urbain, comment ils trouvaient des solutions pour aboutir. Puis ensuite, on a fait un très gros programme d'audition. On a fait une quarantaine d'auditions, on a auditionné 70 personnes au moins, des élus, beaucoup d'élus, des associations de collectivités locales, mais aussi des chercheurs en sociologie, en urbanisme, en aménagement, pour comprendre ce qui se passe dans ces quartiers, ce qui se joue dans ces quartiers. Vous avez tous en tête, Cédric citait Jean-Louis Borloo, mais vous avez tous en tête cette expression où la République se joue là. Dans les quartiers, et donc on a voulu comprendre tout ça plus en détail, et puis évidemment les professionnels de l'aménagement, de la construction, les bailleurs sociaux, les aménageurs, les établissements publics fonciers, et puis des habitants et des collectifs d'habitants qui avaient souhaité nous rencontrer ou qu'on est allé chercher pour pouvoir écouter leurs paroles également. Voilà, et puis des groupes thématiques ensuite, notamment ceux qui ont piloté la feuille de route décarbonation du logement et de l'aménagement, parce que Anne-Claire en parlait, cette notion de résilience des quartiers. On n'est pas tous égaux devant le changement climatique, et les quartiers les plus en difficulté sont souvent ceux sur lesquels c'est le plus difficile de vivre, ces quartiers.
Merci, notamment sur cette possibilité que vous avez eue de rencontrer donc de nombreux acteurs qui vous ont permis de pouvoir faire ce rapport qui, encore une fois, je le rappelle, vous n'avez pas pu remettre du fait des circonstances politiques. À défaut, est-ce qu'à tour de rôle, quand même, vous pouvez tous les trois nous partager les enseignements que vous avez tirés du travail effectué ? Alors on commence pas. Tiens, Anne-Claire, allez-y.
Je commencerai peut-être par un point. Jean-Martin Delorme l'a dit, nous avons rencontré beaucoup, beaucoup d'acteurs. Je crois pouvoir dire, sans fierté excessive en tant que directrice générale de l'ANRU, que tous les acteurs que nous avons rencontrés nous ont dit quelle utilité avait été cette politique publique et était cette politique publique pour apporter des réponses concrètes aux problématiques des habitants des quartiers, et combien ce travail avec l'ANRU, exigeant, où il y avait parfois des choses à améliorer, des choses à changer, bien sûr, et tout n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais combien ce dialogue, ce partenariat national et territorial était profitable et avait permis effectivement de faire avancer des projets dans les quartiers. Et du coup, si vous me le permettez, je voudrais juste en profiter pour remercier l'ensemble des équipes de l'Agence nationale de la rénovation urbaine et l'ensemble des services de l'État qui, sur le territoire, pilotent avec les équipes de l'ANRU, aux côtés des collectivités territoriales, ces projets, parce que c'est bien une reconnaissance aussi de leur travail et de leur investissement par ces retours que nous avons pu avoir sur le territoire. Et donc, ces retours qui ont été à la fois positifs mais aussi exigeants sur certaines méthodes qu'il fallait faire évoluer, et c'est normal, et c'est pour ça aussi qu'on a fait toutes ces auditions. On nous a aussi beaucoup dit qu'il était important de pouvoir envisager un futur et une continuité sur cette politique publique, parce que des problèmes restent, des problèmes subsistent. Et c'est le deuxième élément, moi, qui m'a quand même beaucoup marqué dans ces échanges que nous avons pu avoir, notamment avec des chercheurs, comme le disait Jean-Martin Delorme, c'est l'ampleur des phénomènes de ségrégation socio-territoriale et leur accroissement dans les dernières décennies. L'ANRU a d'ailleurs souhaité poursuivre cette réflexion en consacrant son son magazine de l'automne à cette question de la ségrégation socio-spatiale. Et je crois que c'est un sujet qui nous interroge tous. Pourquoi dans notre pays, nous continuons à avoir des quartiers aussi où la mixité n'est pas là. Beaucoup d'études sont sorties de France Stratégie, de l'INSEE, que vous retrouverez dans notre dernier mag, qui pointent cette question de la ségrégation socio-spatiale et qui, du coup, interrogent les responsables de politiques publiques, comme je le suis, quand on a comme objectif, justement, de renforcer la mixité sociale. Et donc, c'est à la fois une interpellation, un questionnement, mais aussi un encouragement à poursuivre. Parce que quand à la fois on vous dit qu'il y a une politique publique qui a permis de créer ce partenariat pour trouver des solutions ensemble, et qu'en même temps on voit une persistance des enjeux, on se dit que c'est important qu'on puisse continuer à avancer ensemble.
Cédric et Van Simendel, même chose finalement. Quels enseignements vous tirez de ce rapport ?
Vous nous faites un exercice qui est impossible quasiment, parce qu'en fait, on ne doit pas dire ce qu'il y a dans le rapport, et vous nous demandez d'avoir une analyse sur le fond.
Moi, je vais essayer. Je cherche.
Ouais, mais Guilhemé a essayé aussi, il n'a pas réussi, et pourtant, il connaît vraiment très très bien le secteur. Mais je vais répondre très concrètement. Sans rentrer dans le détail, il y a un premier élément, c'est que la rénovation urbaine, c'est ni de droite, ni de gauche. Et faisons en sorte que ça continue comme cela, qu'on n'en fasse pas un outil finalement politisé. C'est bien sûr une politique publique extrêmement importante pour les quartiers, mais on a rencontré des élus de tous bords qui étaient attachés à cet outil, à cette capacité de transformer leur ville. Et donc ça, c'est extrêmement important qu'on en garde et qu'on en fasse un outil de cohésion sociale. Et le deuxième élément, c'est que on voit dans les évolutions, jusqu'à présent, il y avait un enjeu de cohésion sociale que j'évoquais, un enjeu de réhabilitation patrimoniale et un enjeu autour des questions d'économie d'énergie, de lutte contre le réchauffement climatique. On voit que la question de la lutte contre, finalement, l'inégalité climatérielle, elle est au cœur de ces projets de rénovation urbaine. Parce que ce sont les personnes aujourd'hui dans les quartiers qui sont les premières victimes du réchauffement climatique. Et donc, aujourd'hui, cette question-là ne peut pas être simplement une couche supplémentaire sur les projets de rénovation urbaine. Ça prend un poids extrêmement important dans les enjeux de ces politiques publiques. Voilà quelques éléments sans rentrer dans les préconisations, mais qui disent des choses. C'est ni de droite ni de gauche, et la question écologique comme la question sociale sont à des niveaux extrêmement importants dans les préoccupations de celles et ceux qui essayent de conduire le changement de leur territoire avec les habitants.
Bon, bah, je vais tenter ma chance avec Jean-Martin Delorme alors. Quels enseignements vous en tirez-vous de ce rapport ?
Je crois qu'on peut dire que tous les territoires sont concernés par le renouvellement urbain, tous dans leurs différentes typologies. Je ne dis pas qu'il faut tous les aider financièrement, mais tous les territoires sont concernés et c'est plus difficile de faire du renouvellement urbain, de la ville sur la ville, que de faire de la ville en extension urbaine. Et donc on va devoir changer nos façons de faire, nos façons de travailler, nos façons de financer et d'intervenir sur les territoires. Voilà un petit peu l'essentiel finalement.
Avec Claire Miallo, le colloque Penser les quartiers de demain a permis d'évaluer tout le chemin qui a été parcouru en 20 ans en politique de rénovation urbaine. J'imagine que ce colloque a également permis d'évaluer les défis qui restaient éventuellement à relever. Quelle place prend justement parmi ces défis peut-être le climat dans les enjeux de renouvellement urbain ?
Alors, comme le disait à l'instant Cédric Van Simendel, les inégalités climatiques sont réelles. Et la question climatique est aussi une question sociale. Et c'est un sujet sur lequel on a commencé à travailler à l'ANRU, bien évidemment depuis l'origine, hein, parce que dans la loi de 2003, rappelons-nous, hein, le deuxième pilier, le premier c'est la mixité sociale, le deuxième c'était le développement durable. Dans la loi de 2014, on a été encore un cran plus loin avec l'objectif de contribuer à la ville durable. En 2022, sous l'impulsion du ministre Olivier Klein, ancien président de l'ANRU, on a souhaité aller un cran plus loin et lancer la démarche quartier résilient. La démarche quartier résilient, c'était de se dire que nous allions livrer des projets en 2030, parce qu'on est vraiment en train de faire en ce moment, hein, vraiment avec tous les acteurs. L'objectif, c'est de mettre en œuvre le NPNRU. On va livrer ces programmes en 2030. Et lorsqu'on va livrer ces programmes en 2030, il ne faudra pas qu'on se dise « Mais mon Dieu, on savait très bien qu'il y avait un enjeu climatique qui est documenté par tous les rapports du GIEC. Un enjeu de disponibilité des ressources, un enjeu de biodiversité. Et on ne l'a pas pris à bras-le-corps dans les programmes parce qu'ils étaient déjà formatés avec des contrats qui étaient écrits et qui avaient été pensés peut-être avant l'ensemble de ces alertes. » Et donc, on a souhaité avec Quartier Résilient se dire comment avec des programmes qui sont déjà en cours, comment on fait pour les faire évoluer, pour mieux prendre en compte ces enjeux? Parce que la réalité, c'est que la canicule, elle est plus dure dans les quartiers politiques de la ville. Les habitants nous le disent, on a sorti un sondage, il y avait 15 points d'écart entre les résultats et le ressenti de la canicule dans les quartiers et dans les autres quartiers en France. La question du confort thermique, elle est beaucoup plus difficile dans les quartiers politiques de la ville. Les habitants sont en précarité énergétique de manière beaucoup plus forte dans les quartiers politiques de la ville. Et je pourrais continuer bien évidemment les exemples, parce qu'au-delà de ces sujets vraiment concrets liés au climat, on a aussi des sujets de localisation de ces quartiers. Quand on pense par exemple aux quartiers ultramarins, mais c'est le cas aussi sur des quartiers dans l'Hexagone, ces quartiers ont souvent été construits dans des endroits où on ne construisait pas d'autres types de logements, si on est honnête avec nous-mêmes, et donc dans des endroits où il y a parfois des problématiques d'inondations renforcées, des problématiques de recul du trait de côte, des problématiques de glissement de terrain, etc., etc. Et donc nous devons bien évidemment prendre en compte ces enjeux de manière extrêmement forte, et c'est toute la logique de cette démarche quartier résilient que nous avons lancée en 2022. Et donc dans le cadre du colloque que nous avons organisé pour les 20 ans de l'ANRU, on a posé cette question de la façon dont on pouvait mieux travailler sur ces sujets climatiques, à la fois sur le bâti, sur l'aménagement, sur la prise en compte des enjeux de production aussi d'énergie, mais aussi comment on pouvait mieux travailler avec les habitants sur ce sujet-là. Et je pense que celles et ceux qui étaient au colloque des 20 ans de l'ANRU se rappellent de l'interpellation de Ferris Barkat, le président de Banlieue Climat, qui disait que tout ça ne pouvait se faire qu'avec les habitants et qu'il fallait que l'on puisse travailler ensemble pour répondre à ces sujets, ces défis climatiques. Donc pour nous, c'est un enjeu d'aujourd'hui et bien sûr, c'est un enjeu de demain, mais nous devons faire en sorte que les habitants des quartiers qui sont bien évidemment ceux qui souffrent le plus, le GIEC le documente de manière extrêmement précise, les personnes les plus pauvres, et en France, les personnes les plus pauvres sont concentrées dans les quartiers politiques de la ville parce que c'est la définition même du quartier politique de la ville, hein, la concentration de la pauvreté sur un endroit. Les personnes les plus pauvres sont les plus vulnérables au changement climatique.
Jean-Martin Delhomme, vous vouliez réagir par rapport à cette question aussi de l'enjeu du climat.
Oui, juste un remords en fait, mais Anne Clarl vient de l'évoquer. Les Outre-mer sont concernés aussi par ces problématiques de renouvellement urbain et on a tenu à avoir des auditions spécifiques aux Outre-mer pour bien mesurer leurs attentes et pouvoir écouter les élus locaux et les acteurs locaux. Donc voilà, en termes de méthode, il y a cet aspect-là aussi qui est important.
Évidemment. Avec Cédric Van Stevendel, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais dans ce colloque, il a également été relevé l'importance de la participation des habitants dans les projets de renouvellement. Et vous avez insisté sur cette importance qu'il y avait à rappeler cette concertation finalement avec l'ensemble de la population. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à cela ?
Non ? Non, parce qu'après, on va rentrer dans les préconisations du rapport.
Ah, mais j'ai encore tenté ma chance, hein, c'est tout. Bon, l'invitation, en tout cas, est lancée. Une fois le rapport remis, vous viendrez présenter vos conclusions sur Radio Territoria. Hein, vous serez les bienvenus, en tout cas.
Merci.
Dernière petite question. Allez, pour le plaisir, dernière petite question. Est-ce que vous êtes contents, tous les trois, d'avoir une ministre du Logement, enfin ?
Oui.
Voilà.
Oui, je dis que l'ANRU, c'était pas de droite et de gauche, donc je vais pas commencer à faire de la politique maintenant là-dessus. Donc on est content d'avoir une ministre du Logement. Et même à titre personnel, je dois plutôt dire que je suis même plutôt content que ce soit elle. Voilà.
Bon, à l'ANRU, on est content aussi, j'imagine, d'avoir un ministre du Logement. C'est apparaît évident.
À l'ANRU, on est à la fois content d'avoir un ministre du Logement et de la Rénovation Urbaine, ce qui est oui, un intitulé non neutre. Oui. Et nous travaillerons bien sûr avec Madame la ministre le plus tôt possible pour parler de tous ces sujets, de ces enjeux qui nous tiennent particulièrement à cœur. Encore une fois, on travaille pour les habitants des quartiers populaires, celles et ceux qui ont comme seul patrimoine le fait d'avoir parfois un logement social et qui sont dans des quartiers où parfois il est difficile de vivre. Et donc c'est vraiment important et c'est une cause qui nous mobilise en tous les cas, toutes les équipes de l'ANRU. Et vous pouvez en tous les cas compter sur les équipes de l'ANRU et l'ensemble des acteurs du renouvellement urbain pour relever ce défi immense de l'amélioration de la qualité de vie des habitants des quartiers populaires.
Eh bien, merci en tout cas d'en avoir parlé dans cette émission. Merci à tous les trois d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Merci également à vous de nous avoir suivis en direct sur Radio Territoria. L'émission est également disponible en podcast sur les différentes plateformes de diffusion. Merci de votre fidélité et on se retrouve tout à l'heure. Ciao, salut.
Vive. Suivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.